Les matins de France Culture.
Découvrir le monde avec la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, il y a ceux qui font semblant et les autres.
Oui, prenez par exemple Recep Tayyip Erdogan. Le président turc serait-il en train de se détendre? Voilà le genre de question à laquelle la presse outre-Rhin tente cette semaine d'apporter une réponse après qu'un tribunal d'Istanbul a ordonné la remise en liberté conditionnelle d'une citoyenne allemande d'origine turque et de 5 autres co-détenus. À 33 ans, Mesale Tolu, qui travaillait comme journaliste et traductrice, était jugée pour appartenance à une organisation terroriste. Un procès que les nombreux soutiens de la journaliste avaient qualifié de politique. Or, lundi, après 8 mois difficiles passés derrière les barreaux, Mesale est sortie de prison. Heureuse, bien sûr, mais également surprise de son propre aveu, car elle ne s'attendait pas à être libérée. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, a-t-elle déclaré, le droit ne prévaut pas toujours. Et d'ailleurs, si cette libération est évidemment une raison de se réjouir, en revanche, ce n'est pas une raison pour applaudir la justice turque, prévient aussitôt la Süddeutsche Zeitung. Tout d'abord, parce que Mesale n'a toujours pas le droit de quitter la Turquie, que les charges pesant contre elle ne sont pas abandonnées et que son procès reprendra au printemps prochain. Ensuite, parce que 8 autres ressortissants allemands ou binationaux sont toujours emprisonnés en Turquie. Et enfin, explique toujours le quotidien de Munich, parce qu'on ne sait pas si cette décision de justice vient du tribunal ou du palais présidentiel. La Frankfurter Allgemeine Zeitung conseille donc elle aussi de ne pas se laisser aveugler par cette décision de justice. Enfin, pour la Tageszeitung, l'affaire est entendue. Le gouvernement turc a parfaitement conscience de la résistance qu'on lui oppose aujourd'hui, que ce soit en Turquie ou à l'extérieur, et il semble qu'il en ait peur. Erdogan perd du terrain et c'est pour cette raison qu'il a décidé de libérer un prisonnier politique. En clair, c'est la résistance et non la supposée grâce du régime turc qui aurait permis cette libération. Dit autrement, la situation des opposants en Turquie ne s'améliore pas, c'est celle du régime qui se détériore.
Et en Russie à présent, Thomas, une autre décision de justice étonne.
Oui, vendredi dernier, au terme d'un procès spectacle, un tribunal de Moscou a condamné un ancien ministre de l'économie accusé de corruption à une peine de 8 ans de prison assortie d'une amende de 130 millions de roubles et d'une interdiction d'occuper une fonction dans les services de l'État durant 8 ans après sa libération. Alexei Ulyukayev a été jugé coupable d'avoir extorqué un pot de vin de 2 millions de dollars au patron du groupe pétrolier Rosneft. Alors, le condamné, lui, n'a jamais reconnu sa culpabilité. À plusieurs reprises, il a dénoncé un procès aux accusations absurdes. L'ex-ministre sait mieux que quiconque que le patron de Rosneft a la confiance de Poutine. Il n'a donc pas pu extorquer un pot de vin. Il n'est pas fou. D'où cette question récurrente dans la presse moscovite. Pourquoi l'ancien ministre de l'économie a-t-il été condamné à 8 ans de prison? Pour le quotidien Nezavisimaya Gazeta, repéré par le Courrier international, une peine si élevée serait le prix à payer pour sa déloyauté. Alexei Ulyukayev se serait non seulement préparé à émigrer dans un pays occidental, mais il aurait également conservé des biens à l'étranger. Or, pour le Kremlin, les biens à l'étranger qui servent à soutenir le régime, c'est une chose, mais les biens offshore pour sa propre poche, c'en est une autre. En clair, il y aurait la bonne et la mauvaise corruption. Enfin, le titre relève également la dimension politique de cette sentence. Le condamné aurait été sacrifié par le Kremlin, devenant ainsi le symbole de ce qui peut arriver à tout homme politique, quel que soit son rang en cas de désobéissance.
En somme, Thomas, Vladimir Poutine, lui, n'est pas du genre à faire semblant.
Non, et à en croire Newsweek, figurez-vous qu'il se préparerait même à la Troisième Guerre mondiale. Ouais, et ça, c'est plutôt moche, ajoute non sans une certaine ironie le magazine américain à la une de son prochain numéro. Car si Vladimir Poutine imagine que son pays est au bord d'un conflit cataclysmique, ou plus exactement, s'il entend faire croire à ses compatriotes que la Russie, assiégée, entourée d'ennemis, attaquée de toutes parts, est prête à mener une guerre épique pour assurer sa survie, c'est surtout pour détourner l'attention de ses concitoyens. Les revenus des ménages, notamment, n'ont cessé de diminuer ces 4 dernières années, rappelle le quotidien indépendant Novaya Gazeta. Et tandis que l'économie de la Russie s'effondre littéralement, eh bien la création du mythe de la guerre perpétuelle permet au chef du Kremlin, lequel mène campagne pour sa réélection, d'unir son pays derrière un ennemi extérieur imaginaire. Reste que la Russie s'est bel et bien engagée dans une étrange course aux armements pour combattre qui et où, seul Vladimir Poutine le sait.
Et puis enfin, il en est un autre qui, quand il s'y met, lui non plus, ne fait pas semblant, c'est Donald Trump.
Oui, cette semaine, le président américain a présenté sa stratégie de sécurité nationale, mettant en garde contre un monde où les États-Unis font face à des menaces grandissantes de la part d'une Russie et d'une Chine enhardies, ainsi que d'États voyous comme la Corée du Nord et l'Iran. Et pour faire face à ces nouveaux défis, eh bien, il préconise avec de forts accents de guerre froide de mettre l'Amérique d'abord, de fortifier ses frontières, de faire table rase d'accords commerciaux injustes et de rebâtir sa puissance militaire, note The New York Times. Ou quand le locataire de la Maison Blanche se place au centre de la stratégie de sécurité nationale, renchérit The Washington Post. Le monde contre l'Amérique, c'est d'ailleurs le titre de l'édito du journal Al-Hayat Al-Jadida. Dernier exemple en date de ce que l'Amérique a choisi de s'isoler du reste du monde, le veto prononcé cette semaine par les États-Unis contre la résolution du Conseil de sécurité prévoyant de rejeter la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. En réalité, derrière les diatribes du président américain, précise l'éditorialiste du Temps, on observe surtout un repli sur le triangle autoritaire d'alliés tacites que constituent l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël, gros clients de l'industrie américaine d'armement en tout genre. Enfin, cette nuit, la Chambre des représentants américains a approuvé le projet de réforme fiscale voulu par le président qui termine ainsi l'année sur une victoire. Reste à savoir jusqu'à quel point. Sans doute le président milliardaire et sa famille en profiteront-ils, précise le quotidien USA Today. En revanche, selon un sondage publié par CNN, 55% des personnes interrogées étaient opposées à cette réforme, deux tiers jugeant qu'elle ne profitera qu'aux riches.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. Vous avez évoqué, Thomas, les menaces de guerre. On va en parler avec le général Pierre Devilliers, qui est notre invité dans quelques minutes. Et puis, on va évoquer également les quatre théâtres d'opération où l'armée française est engagée. Il est 7h30 sur France Culture.